Chapitre 9e. Le premier plan qui m'était venu à l'idée, c'était de gagner la grande route la plus voisine et de prendre le premier carrosse public allant à Londres. J'imaginais que je serais là plus à l'abri des recherches si la vengeance de M. Falkland le portait à me poursuivre, et je ne doutais pas de trouver bientôt parmi les ressources multipliées de la capitale une manière avantageuse de placer ma personne et mes talents. Dans mon arrangement, je gardais M. Forrester comme une dernière ressource à laquelle je n'aurais recours que dans le cas où j'aurais besoin d'une protection directe contre les traits du pouvoir et de la persécution. Ce qui me manquait surtout, c'était cette expérience du monde qui peut seule nous rendre féconds en ressources, ou au moins nous mettre à portée d'établir une juste comparaison entre celles qui s'offrent à nous. Après avoir arrangé ma marche, le cœur rempli de joie, je poursuivis le sentier détourné dans lequel je me trouvais. Il faisait une nuit sombre et il tombait une petite pluie très fine, mais à peine m'en apercevais-je. Jamais le ciel ne m'avait paru si serein et si brillant. Je ne touchais pas à terre. « Je suis libre, » me répétais-je mille fois à moi-même. « Qu'ai-je à démêler à présent avec les dangers et les alarmes ? Je sens que je suis libre, je sens que je resterai toujours libre. » Y a-t-il une puissance capable de retenir dans les chaînes une âme ardente et déterminée? Y a-t-il une puissance qui ait le droit d'infliger la mort à un homme quand toutes les facultés de son être lui commandent de vivre? Je ne reportais plus qu'un œil d'horreur et d'indignation sur le honteux assujettissement dans lequel j'avais été tenu. Je ne sentais pas de haine contre l'auteur de mes infortunes. La justice et la vérité ne me désavoueront pas. Je n'éprouvais que de la pitié pour la cruelle destinée à laquelle il semblait condamné. Mais ce n'était qu'avec un dégoût inexprimable que je pensais à ces erreurs qui font que chaque homme est réservé à être plus ou moins esclave ou tyran. Je ne pouvais revenir de l'aveuglement du genre humain, de ce qu'il ne se levait pas tout entier pour secouer le joug insupportable de la misère et de l'ignominie. Quant à moi, je pris bien la résolution, et c'est une résolution à laquelle je n'ai jamais entièrement manqué, de me tenir toujours hors de cet odieux théâtre et de ne jamais remplir le rôle d'opprimé ni d'oppresseur. Pendant tout le cours de cette expédition nocturne, mon esprit demeura dans la chaleur de l'enthousiasme, plein de hardiesse et de confiance, et accessible seulement à ce qu'il fallait de crainte pour le tenir dans une douce émotion, mais non pour me causer rien de pénible ou de douloureux. Après 3 heures de marche, j'arrivais sans accident au village où je comptais prendre une place pour la capitale. 6 matins, tout était tranquille, aucun son de créature humaine ne frappa mon oreille. Ce ne fut qu'avec grande difficulté que je parvins à me faire introduire dans la cour d'une auberge où je trouvais un garçon d'écurie qui pansait ses chevaux. Je reçus de lui l'information peu agréable que le carrosse ne passant par cet endroit que 3 fois par semaine, on ne l'attendait pas avant le lendemain 6 heures du matin. Cette nouvelle commença à rabattre un peu les transports d'ivresse auxquels j'étais livré depuis l'instant où j'avais quitté la maison de M. Falkland. Toute ma fortune en argent comptant montait à environ 11 guinées. J'en avais bien à peu près 5 ans de plus qui m'étaient venus de la succession de mon père, mais cette somme était placée de manière à n'être pas à ma disposition pour l'instant, et je doutais même si je ne ferais pas mieux, au bout du compte, d'y renoncer tout à fait que de m'exposer en la réclamant à laisser un fil à mon persécuteur pour suivre mes traces, ce que j'avais le plus à redouter au monde. Il n'y avait rien que je désirasse aussi ardemment que d'anéantir tout moyen de communication entre nous pour l'avenir, de manière qu'il ne sût pas même si j'existais encore, et que de mon côté je n'entendisse pas seulement prononcer le nom de mon ancien maître. Dans l'état où étaient mes affaires, je sentis que l'économie n'était pas une vertu à négliger, hors d'état, comme je l'étais, de prévoir les retards ou les obstacles qui pourraient contrarier mes projets, quand, une fois je serais arrivé à Londres. Pour cette raison et pour d'autres encore, je crus devoir persister dans mon premier plan de voyager par le carrosse. La seule chose qui me restait à considérer, c'était de savoir comment je m'arrangerais pour qu'un délai de 24 heures ne devînt pas pour moi, par quelque fâcheuse rencontre, une nouvelle source de calamité. Il n'était nullement prudent de passer tout ce temps au village où je me trouvais. Il ne me semblait même pas à propos de l'employer à continuer mon chemin à pied sur la grande route. En conséquence, je me décidai à faire un circuit dont la direction semblait d'abord s'écarter extrêmement de la route que je projetais, mais qui, rabattant tout d'un coup dans un autre chemin de traverse, me mettrait à même de gagner à la chute du jour une ville de marché plus voisine de 12 000 de la capitale. Après avoir ainsi fait mon arrangement pour la journée, et m'être bien convaincu que c'était le plus convenable aux circonstances, je chassai de mon esprit toutes mes inquiétudes et je me laissai aller à tous les différents sujets de distraction qui s'offraient à moi. Je m'arrêtais ou bien je poursuivais ma route suivant l'impulsion du moment. Tantôt, couché sur un rivage, je restais plongé dans une douce rêverie. Tantôt, j'examinais en détail les différentes vues qui se succédaient les unes aux autres. Les brouillards du matin se dissipèrent et firent place à un ciel pur et fortifiant. Avec cette ductilité d'esprit qui caractérise si bien la jeunesse, j'oubliais en un instant les alarmes qui étaient depuis longtemps mes compagnes inséparables, et je vis l'avenir se déployer devant moi sous mille formes toujours nouvelles. À peine si, dans tout le cours de mon existence, j'ai passé une journée de jouissance plus délicieuse et plus variée. Elle formait un contraste bien marqué et peut-être assez salutaire avec les terreurs qui l'avaient précédée et les scènes terribles qui devaient la suivre. J'arrivai le soir au lieu de ma destination. Je m'informai de l'auberge où le carrosse avait coutume de loger. Comme j'entrais dans la cour, je fus abordé par un homme à cheval qui y entrait au même instant et qui me demanda si je ne m'appelais pas Williams. Quoiqu'il fît déjà presque nuit quand j'avais gagné l'entrée de la ville, j'avais remarqué ce même homme qui venait en sens contraire au mien et m'avait croisé à environ un demi-mille de là. Il m'avait lui-même observé avec un air de curiosité qui m'avait déplu, et autant que j'avais pu le distinguer, il m'avait paru d'assez mauvaise mine. Il n'y avait pas 2 minutes qu'il m'avait dépassé lorsque j'avais entendu le pas d'un cheval qui avançait lentement derrière moi. Cette circonstance m'avait causé quelque inquiétude. J'avais d'abord ralenti ma marche, et ceci ne m'ayant servi de rien, je m'étais arrêté pour laisser passer le cavalier, ce qu'il avait fait. Un coup d'œil que j'avais jeté sur lui m'avait fait penser que c'était le même homme que j'avais déjà remarqué. Il avait pressé le pas de son cheval et était entré dans la ville. J'avais continué, et peu de temps après, je l'avais vu à la porte d'un cabaret buvant un pot de bière. Ce que cependant je n'avais pu apercevoir à cause de l'obscurité, sinon à l'instant même que j'avais été tout près de lui. J'avais été toujours en avant et ne l'avais pas revu, si ce n'est, comme je l'ai déjà dit, quand il m'aborda dans la cour de l'auberge. Cette aventure avait, pendant ma route, chassé la gaieté de mon esprit et y avait fait naître 1000 idées sinistres. Cependant, en y pensant davantage, mes craintes m'avaient paru sans fondement. Si j'étais poursuivi, il me semblait que ce devait être nécessairement par quelqu'un des gens de M. Falkland et non pas par un étranger. Or, cet homme, j'étais bien sûr de ne l'avoir jamais vu de ma vie. Je m'étais cru dispensé même des préventions les plus simples, étant déjà presque nuit. Enfin, je m'étais déterminé à aller jusqu'à l'auberge pour y prendre les informations dont j'avais besoin. Je n'eus pas plutôt entendu le bruit du cheval à mon entrée dans la cour, ainsi que la question qui me fut faite par le cavalier, qu'aussitôt j'eus l'esprit frappé de l'affreuse certitude de tout ce que je craignais. Tout incident qui avait quelque liaison avec la situation à laquelle je venais d'échapper était fait pour me glacer d'effroi. Ma première idée fut de m'enfuir à travers champs et de me fier pour ma sûreté à la vitesse de mes jambes. Mais la chose n'était guère praticable. Je remarquai que mon adversaire était seul et il me sembla que d'homme à homme, je pouvais raisonnablement espérer, de manière ou d'autre, de m'en débarrasser, soit par une ferme résolution, soit par les ressources de mon esprit. Cette détermination prise, je lui répondis d'un ton brusque et résolu que j'étais bien celui qu'il avait nommé. « Je devine bien, ajoutai-je, pourquoi vous venez, mais c'est inutile. Vous voudriez me ramener au château de Falkland, mais on ne m'arrachera jamais envie de cette place. Je n'ai pas pris mon parti avant d'y avoir bien réfléchi, ni sans avoir de fortes raisons, et puisque je l'ai pris, l'univers entier ne me le ferait pas changer. Je suis anglais, Dieu merci, et le privilège d'un anglais c'est d'être seul maître et seul juge de ses actions. « Hé là !» me dit-il, « calmez-vous un peu. Pourquoi diable vous pressez si fort de deviner mes intentions et de me dire les vôtres? Mais au reste, vous avez deviné juste. Et peut-être avez-vous à vous applaudir de ce qu'il n'y a rien de plus fâcheux pour vous dans ma commission. Ce qu'il y a de sûr, c'est que M. Falkland compte bien que vous allez revenir avec moi. Et de plus, j'ai une lettre pour vous et peut-être, quand vous l'aurez lue, ne serez-vous pas aussi obstiné. Si cela ne suffit pas, on verra après ce qu'on aura à faire. » En disant ceci, il me donna la lettre. Elle était de M. Forrester, qu'il avait laissée, à ce qu'il me dit, à la maison de mon maître. Voici ce qu'elle portait. « Williams, mon frère Falkland a envoyé le porteur de la présente pour vous chercher. Il s'attend que, si on vous trouve, vous reviendrez à la maison. Je m'y attends aussi. Cela est de la dernière conséquence pour votre honneur et votre réputation. Quand vous aurez lu ceci, si vous êtes un bas et méprisable coquin, vous chercherez peut-être à vous enfuir. Si votre conscience vous dit que vous êtes innocent, il n'y a pas le moindre doute que vous reviendrez. Apprenez-moi si j'ai été votre dupe et si, au moment où je me laissais aller à votre extérieur de candeur et de simplicité, je n'étais que l'instrument d'un déterminé fripon. Si vous venez, j'engage ma foi que, pourvu que vous laviez votre réputation, non seulement vous aurez la liberté d'aller partout où il vous plaira, mais que vous aurez de moi tous les secours qui peuvent être en mon pouvoir. Prenez-y garde, je ne m'engage à rien de plus. » Valentin Forrester. Quelle lettre ! Pour une âme comme la mienne, brûlante de l'amour de la vertu, une pareille lettre était capable de ramener, d'un bout du monde à l'autre, celui à qui elle était adressée. Les prisons, les tortures, les échafauds n'étaient rien auprès. Les idées qu'elle excita en moi remplirent toute la capacité de mon esprit et fermèrent la porte à toute réflexion d'un autre genre. Je repassais dans ma tête chaque incident remarquable qui avait pu m'arriver dans la maison de M. Falkland. Excepté l'affaire du coffre mystérieux, je ne me rappelais rien dont on pût faire sortir l'ombre d'une accusation de la nature de celle indiquée dans la lettre de M. Forrester. Dans cette affaire, ma conduite, sans nul doute, avait été extrêmement répréhensible, et je n'y avais jamais repensé sans me la reprocher vivement. Mais je ne voyais pas que cette action fût de la nature de celle qu'on peut soumettre à la censure des lois. Bien moins encore pouvais-je me persuader que M. Falkland, que la seule possibilité de se voir découvert faisait frissonner, et qui devait se regarder comme entièrement à ma discrétion, osa jamais mettre en avant un fait si étroitement lié avec la cause de mon supplice continuel. En un mot, plus je méditais sur les expressions du billet de M. Forrester, moins je pouvais m'imaginer la nature des scènes dont elles étaient en quelque sorte le prélude. Toutefois, l'impossibilité de pénétrer le mystère enfermé sous ces expressions n'était pas faite pour adoucir mes craintes. Elle ne servait au contraire qu'à rendre plus poignantes les alarmes dont j'étais rempli. Elle subjuguait toutes les facultés de mon âme, excepté mon courage. Quelles étonnantes ressources mon persécuteur avait-il donc à son commandement? C'était maintenant que je commençais vraiment à le redouter. Toutes les terreurs qui jusqu'à présent avaient obsédé mon esprit me semblaient des jeux d'enfant en comparaison de ce que j'éprouvais. Mais que pouvais-je faire? C'était un ennemi qu'il fallait affronter et non pas fuir. « Déchire-moi en pièces ! » m'écriai-je, épouvantable et incompréhensible démon. « Suspends ce corps misérable aux rayons d'un soleil brûlant, qu'il le dessèche en poussière. Inflige-moi des tortures lentes et raffinées, inouïes, jusqu'à ce jour, tu le peux. Dans un coin ou dans un autre de la terre, tu peux m'atteindre. Mais mon honneur ne sera jamais ta victime. On m'entendra, on connaîtra la vérité. Tous les artifices de l'enfer ne sauraient l'empêcher. Je puis être le plus infortuné des hommes, mais mes persécuteurs eux-mêmes seront forcés de reconnaître mon innocence. » « Ami, dis-je au porteur de la lettre après un long silence, vous avez raison. Vous m'avez remis une lettre bien extraordinaire en vérité, mais j'y obéirai. Certainement, je vous suivrai à présent, quelles qu'en soient les conséquences. Jamais personne ne pourra jeter de blâme sur moi tant qu'il sera en mon pouvoir de me laver moi-même. » Je sentis que dans la position où me mettait la lettre de M. Forrester, il me convenait de montrer non pas une simple volonté, mais l'empressement et l'impatience de retourner. Nous nous procurâmes un second cheval dans le village et nous fîmes notre route, mon compagnon et moi, dans le plus parfait silence. Pendant ce temps, j'avais l'esprit encore occupé à chercher l'explication de la lettre de M. Forrester. Mais tous mes efforts ne me conduisaient à rien de satisfaisant. Je connaissais bien toute la rigueur et l'inflexibilité de M. Falkland à poursuivre les desseins qu'il avait le plus à cœur, mais je savais aussi que tout principe de vertu et de magnanimité était naturel à son caractère. Quand nous arrivâmes, il était plus de minuit, et nous fûmes obligés de réveiller un des domestiques pour nous ouvrir. Je trouvai que M. Forrester, dans l'idée que je pourrais arriver pendant la nuit, avait laissé un mot pour moi, dans lequel il me marquait de me mettre aussitôt au lit, et de prendre soin de n'être pas dans un état de fatigue ou d'épuisement pour l'affaire du lendemain. Je tâchai de me conformer à son avis, mais j'eus un sommeil fort agité et très peu rafraîchissant. Cela ne me découragea pourtant pas. La singularité de ma situation, mes conjectures sur le présent, mes craintes sur l'avenir, ne m'auraient pas même laissé la possibilité de m'abandonner à la langueur et à l'inactivité. Le lendemain matin, la première personne que je vis fut M. Forrester. Il me dit qu'il ne savait pas encore ce que M. Falkland avait à alléguer contre moi, parce qu'il n'avait pas voulu le savoir. Il était venu le jour précédent à la maison de son frère, où il avait rendez-vous pour régler quelques affaires indispensables, avec l'intention de repartir au moment où les affaires seraient terminées, sachant bien que cette façon d'agir serait la plus agréable à M. Falkland. Mais il n'était pas plus tôt venu qu'il avait trouvé toute la maison en alerte, parce qu'on venait d'avoir depuis quelques heures la première nouvelle de mon évasion. M. Falkland avait dépêché des domestiques à ma poursuite sur tous les points, et il en était revenu un, au moment de l'arrivée de M. Forrester, portant la nouvelle qu'une personne conforme au signalement donné avait été vue le matin à la ville, demandant le carrosse pour Londres. M. Falkland avait paru extrêmement troublé de ce rapport, et s'était emporté contre moi avec la dernière âcreté, m'appelant le plus ingrat et le plus dénaturé coquin du monde. « Monsieur, avait repris M. Forrester, prenez un peu plus garde à ce que vous dites. C'est un terme bien dur que celui de coquin, et il ne faut pas s'en servir légèrement. Les Anglais sont libres, et un homme ne doit pas être appelé un coquin pour avoir voulu chercher une autre manière de gagner sa vie. » M. Falkland avait secoué la tête, et avec un sourire plein d'amertume, « mon frère, avait-il dit, vous êtes la dupe de ces artifices. Pour moi, il m'a toujours été suspect, et je me doutais de la perversité de son caractère, mais actuellement, j'ai des preuves. » « Arrêtez, monsieur, avait interrompu M. Forrester. Je croyais, je l'avoue, que dans un moment d'aigreur, vous employiez contre lui des expressions dures sans y attacher de sens déterminé. Mais si vous avez quelque grief sérieux contre Williams, je vous prie qu'il n'en soit pas question entre nous avant que je sache si ce garçon est à portée d'être entendu. Pour mon propre compte, je ne me soucie guère de l'opinion des autres. C'est une chose que le monde accorde ou retire avec si peu d'examen qu'il est impossible de rendre la moindre raison des jugements qu'il porte. Mais cette considération ne m'autorise pas à prendre légèrement une mauvaise opinion de quelqu'un. Le moins que je puisse faire en faveur de ceux qui sont assez malheureux pour encourir le mépris et la haine publique, c'est d'exiger qu'ils aient été préalablement entendus dans leur défense. Une règle très sage dans nos lois veut que le juge monte sur le siège sans rien connaître du fond de la cause sur laquelle il a à prononcer, et comme particulier, je suis décidé à me conformer à cette règle. Je trouve juste de procéder contre un coupable d'une manière sévère et inflexible. Mais plus je mettrai de rigueur dans les conséquences, plus je veux d'impartialité dans les préliminaires. » Pendant que M. Forrester me rapportait ces détails, il me voyait prêt à l'interrompre à chaque mot. Tant j'étais tourmenté du besoin d'exprimer une partie des sentiments qu'excitait en moi son récit. Mais il ne voulut jamais me laisser parler. « Non, non, Williams, me dit-il, je n'ai pas voulu entendre M. Falkland contre vous. Je ne veux pas non plus entendre votre défense. Dans ce moment-ci, je suis venu pour vous parler, et non pas pour vous écouter. J'ai cru à propos de vous avertir de votre danger, mais je n'ai rien de plus à faire pour le présent. Réservez pour un autre moment ce que vous avez à dire. Arrangez votre histoire du mieux qu'il vous sera possible. Bref, si la vérité, comme je l'espère, peut vous amener à votre but, sinon la plus plausible et la plus ingénieuse que vous pourrez l'imaginer. Le soin de sa propre défense exige l'emploi de tous les moyens, et un homme qui se trouve mis en jugement a tout le monde contre lui, et à se battre seul contre tous. Adieu, que le ciel vous envoie une heureuse délivrance. Si l'accusation de M. Falkland, quelle qu'elle soit, se trouve être l'effet de la précipitation, comptez sur moi comme sur un ami plus chaud que jamais. Sinon, voici le dernier témoignage d'amitié que vous recevrez de moi. » On peut croire que cette harangue, si singulière, si grave, si chargée de menaces conditionnelles, n'était guère propre à adoucir l'anxiété de mon âme. J'ignorais totalement les griefs qu'on m'imputait, et ce n'était pas un petit sujet de surprise pour moi, tandis qu'il était en mon pouvoir d'être pour M. Falkland le plus formidable des accusateurs, de voir cependant tous les principes de l'équité assez complètement renversés pour que l'homme innocent, et muni d'une âme assez forte, fut la partie accusée et souffrante, au lieu d'avoir, comme il était juste, le véritable criminel à sa merci. J'étais encore plus étonné de cette puissance surnaturelle qui semblait être dans les mains de M. Falkland pour amener ainsi, d'une manière irrésistible, dans la sphère de son autorité, l'objet de sa persécution, réflexion qui ne laissait pas de décourager un peu cette soif d'indépendance qui était alors la passion dominante de mon âme. Mais ce n'était pas le moment des réflexions. Pour l'homme opprimé et malheureux, le cours des événements paraît être lancé hors de sa portée, tandis qu'entraîné lui-même avec eux par une force insurmontable, tous ses efforts ne peuvent les atteindre pour en modérer la rapidité. On me laissa seulement quelques instants pour me recueillir, et on procéda à l'instruction de mon procès. Je fus conduit à la bibliothèque, où j'avais passé tant de moments heureux dans les plus douces méditations. Là, je trouvai M. Forrester et trois ou quatre des gens de la maison, déjà assemblés, et qui m'attendaient ainsi que mon accusateur. Tout était disposé de manière à me faire sentir que je n'avais à compter que sur la justice des parties intéressées et que je ne devais rien attendre de leur merci. M. Falkland entra par une porte presque au moment où j'entrais par l'autre.